Est-ce que vous avez l'impression que ces images vous ressemblent ou qu'elles ont un quelconque rapport avec vous? Apparemment pas encore. Eh bien, j'espère que tout à l'heure ces images vous parleront davantage, parce que la parole de Dieu nous dit que si nous voulons suivre Christ et vivre à la hauteur de notre appel, nous devons avoir la disponibilité d'un soldat, nous devons nous comporter comme si nous étions un athlète, et puis nous devons travailler comme un cultivateur. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à la deuxième lettre de Timothée au chapitre 2. De Timothée chapitre 2. Voilà. Et ce sera la page 783 si vous avez une Bible blanche. Et le texte sera également projeté. Alors c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, qui est un jeune pasteur de l'église d'Éphèse. Timothée a un cœur de serviteur, il a le désir de faire de grandes choses, mais il semblerait qu'il ait des difficultés à le mettre en pratique dans sa vie. Parce que là où il se trouve, il est confronté à une situation assez complexe. Il faudrait qu'il soit partout à la fois, mais bien sûr c'est impossible. Il manque de temps, il est fatigué, et il ne sait plus vraiment ce qu'il doit faire. Du coup, il est découragé et il est tenté de baisser les bras et de se dire qu'il n'est pas l'homme de la situation. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui nous arrive trop souvent dans notre vie? Nous avons envie que notre vie soit utile, nous avons envie de faire de grandes choses et en particulier de grandes choses pour Dieu, mais notre problème est que notre vie est déjà trop remplie. Alors, nous faisons des choix, mais est-ce que ce sont les bons? Et il y a des fois où nous terminons notre journée avec une sorte de malaise, un malaise intérieur avec ce sentiment désagréable que nous n'avons pas fait les bons choix ou bien que nous n'avons pas fait assez. Nous pouvons également avoir l'impression que nous avons perdu le contrôle de notre propre vie. Voilà, nous subissons les choses plus que nous les choisissons. Et puis nous avançons dans notre vie avec quelques projets, bien sûr, mais sans réel objectif, sans vraiment savoir où nous allons. Nous prenons les choses plutôt comme elles se présentent, sans très bien savoir où nous allons et sans travailler à construire notre propre vie. Et bien le texte que nous allons lire met en lumière la manière dont nous devons aborder notre propre vie si nous voulons que notre vie ait un sens et qu'elle porte du fruit. De Timothée 2, et nous lirons les versets 1 à 7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis, et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Le verset 2 a déjà fait l'objet d'une prédication lors de notre dernier week-end de rentrée et peut être écouté sur le blog. Aussi, ce matin, notre attention se portera plus particulièrement sur les versets 4 à 6, où les questions de soldats, d'athlètes et de cultivateurs. Parce que ce sont les trois images qui vont nous aider à discerner de quelle manière nous devons aborder notre propre vie. Tout d'abord, le soldat, verset 4. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Ce verset ne met pas en avant la combativité du soldat, ni sa force, ni même sa capacité à se servir de ses armes. Ce qui met en avant ici, et comme un modèle dont nous devons nous inspirer pour notre propre vie, c'est que le soldat ne s'embarrasse pas de tout ce qui est secondaire. Sa priorité, c'est de chercher à plaire à son chef. Ne trouvez-vous pas que notre vie est souvent très compliquée et remplie de beaucoup de choses? Elle est tellement compliquée et tellement remplie que nous ne voyons pas comment nous pourrions suivre Dieu au milieu de tout cela. Eh bien, il y a une bonne nouvelle. Le Seigneur nous dit que nous ne sommes pas obligés de tout faire. Ce qui est important, c'est d'avoir la bonne priorité et de nous y tenir. Bien des problèmes que nous rencontrons découlent du fait que nous n'avons pas de priorité dans notre vie, ou bien que nos priorités sont mauvaises. Eh bien, le Seigneur nous fait un beau cadeau en nous disant que notre priorité absolue doit être de chercher à lui plaire, et pour le reste, on peut mettre ça de côté parce que ce n'est que secondaire. Je me souviens que lorsque j'étais pompier et que j'étais de garde, ma vie devenait soudainement beaucoup plus simple parce que la priorité de ma vie était claire. C'était de porter assistance aux gens. Alors bien sûr, ma vie ne se résumait pas à ça. J'avais aussi plein d'autres activités, plein de choses à faire, des choses importantes, plein de gens à voir. Mais lorsque mon bip sonnait et que j'étais appelé en intervention, eh bien, tout passait au second plan. J'avais beau avoir des invités à la maison, des gens avec qui j'avais plaisir d'être là, je devais les laisser. Je pouvais être en train de lire ma Bible. C'est important de lire notre Bible, n'est-ce pas? Si mon Bible sonnait, je devais la poser. Je me souviens qu'une fois, j'étais en train de faire la cuisine, et puis j'avais beau être célibataire, j'aimais bien cuisiner en grand, j'avais un congélateur, et là je faisais en même temps 3 gâteaux. C'était pas très prudent, j'étais de garde. Et puis j'arrive au moment où on met la levure, et puis si vous cuisinez, vous savez qu'à partir du moment où vous avez mis votre levure, eh bien il faut vite mettre au four. Et mon bip a sonné à ce moment-là. J'ai dû tout laisser en plan, et bien sûr, mes gâteaux, que je faisais déjà depuis un petit moment, ont été gâchés. En tant que pompier également, je disposais de plusieurs uniformes, mais j'avais un problème qui m'était propre, c'est qu'une fois, j'avais fait une lessive avec pas mal de mes uniformes d'un coup, et puis j'avais mis un programme trop chaud, et puis mes uniformes, ils avaient fait quoi? Ils avaient rétréci. Et du coup, j'en avais pas beaucoup. Et puis, c'est un travail particulier, souvent on est amené à se salir, et je faisais vraiment attention de ne pas me salir, surtout que je travaillais pendant 48 heures d'affilée, donc il fallait faire attention. Je faisais attention à ne pas me salir, mais si jamais, donc quand je travaillais à la caserne normalement, mais si jamais je partais en intervention, eh bien cette priorité n'en était plus une. Plus exactement, elle ne devenait que secondaire, parce que ma priorité était de porter assistance à des personnes. C'était ma priorité absolue, et tant pis si pour faire ça, j'étais amené à me rouler dans la boue ou à descendre dans des égouts. Lorsque dans notre vie nous avons une priorité absolue et qu'elle est claire pour nous, notre vie devient immédiatement plus simple parce que cela nous permet de faire les bons choix. Parce que notre vie n'est qu'une succession de choix, de chaque jour, de chaque instant. Et lorsque nous savons que nous avons fait le bon choix, il nous est beaucoup plus facile de renoncer à certaines choses sans nous culpabiliser. Peut-être des choses importantes pour nous. Des choses, on se dit, mais ça aurait été bien que je puisse le faire. Mais lorsqu'on doit faire un choix, si nous savons que nous avons choisi la bonne chose, eh bien nous pouvons nous dire que même si nous n'avons pas tout fait, nous avons fait le bon choix dans notre vie. Notre priorité dans notre vie doit être de chercher à plaire à Christ. C'est notre priorité numéro un, c'est notre priorité absolue. Cela concerne ce que je fais. Par exemple, qu'est-ce que je fais le dimanche matin? Vous êtes là. Si je dois choisir entre rester à la maison aller voir quelqu'un ou bien aller à l'église. Qu'est-ce qui plaît à Jésus? Et il ne faut pas croire que ce n'est pas forcément si simple à répondre à cette question. Hein. On peut avoir d'autres choses aussi importantes. Et si jamais on a l'impression qu'il y a plusieurs choses importantes, de nous dire, mais si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Cela peut concerner également nos pensées. Je peux choisir de penser, par exemple, aux gens qui m'ont fait du mal, et peut-être même à la manière dont je vais me venger. Ou bien je peux également choisir de penser à la manière dont je vais me réconcilier avec mon frère. Qu'est-ce qui plaît à Jésus? Cela concerne également mes sentiments. Confronté à la même situation, je peux laisser éclater ma colère, permettre à la frustration de grandir en moi, ou bien je peux faire le choix de faire confiance à Jésus. Qu'est-ce qui plaît à Jésus? Lorsque je fais le choix de ce qui plaît à Jésus, je fais le meilleur des choix, même si pour cela, je dois renoncer à certaines choses, et que certaines de ces choses étaient bonnes en elles-mêmes. Parce que Dieu nous a donné des limites que nous ne pouvons pas dépasser. Nous ne pouvons pas tout faire, nous ne pouvons pas être partout. Eh bien, Jésus nous libère d'une grande frustration ou d'une fausse culpabilité, celle de ne pas avoir pu tout faire. Chaque fois que cela est nécessaire, nous devons être prêts comme un soldat à mettre de côté ce qui est secondaire afin d'accomplir notre mission, faire ce que Jésus ferait à notre place. Oh, c'est bête, j'ai raté la belle diapo, celle-ci, depuis tout à l'heure. Faut me faire signe, moi je vois pas l'écran. En cas, vous savez pas ce que j'ai prévu de projeter. Ben non. Pour nous aider à discerner comment plaire à Christ, le verset 5 lui utilise une autre image, celle de l'athlète. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Que doit faire un athlète pour remporter le prix? Respecter les règles. Si un athlète qui ne respecte pas les règles du jeu, il est disqualifié. Celui qui triche ne rend pas service à son équipe ou à son pays, mais généralement même le met dans l'embarras ou le couvre de honte. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Non. Or, c'est sur une tricherie que la France a été qualifiée pour participer à la Coupe du Monde de foot en 2010. Nous ne méritions pas d'y aller, et d'ailleurs la suite des événements a montré que nous aurions mieux fait de ne pas y aller. Parce que l'équipe de France qui était retenue pour la représenter en était indigne, et la France a été la risée du monde. Eh bien, pour plaire à Jésus et pour honorer notre Seigneur, les chrétiens doivent aussi respecter les règles fixées par Dieu lui-même. Ces dernières semaines, les responsables de diverses missions évangéliques ont révélé, après une enquête approfondie, qu'un serviteur de Dieu n'avait pas respecté les règles fixées par Dieu. Dans le but de témoigner de la puissance de Christ, cet homme a apporté un faux témoignage sur son passé, c'est-à-dire pour ça que son livre n'est plus en vente. Tous les libraires ont retiré son livre de la vente. Et à cause de son mensonge, il espérait probablement que, voilà, il allait présenter les choses d'une telle manière que les gens allaient dire « Waouh, je veux venir au Seigneur !» Sauf que nous, la vérité est quelque chose d'important. Notre message s'appuie sur la vérité. Et si nous mentons dans notre témoignage, nous pouvons amener à faire croire aux gens que notre message est fondé sur un mensonge. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Et lorsqu'on veut arriver à un résultat, il est parfois tentant de ne pas tout à fait respecter les règles. On ne va pas dire tricher, mais de ne pas tout à fait respecter les règles. Et je crois avoir déjà eu une discussion avec quelqu'un ici sur même cette main de Thierry Henry qui était « c'est pas tout à fait tricher, parce que si l'arbitre ne dit rien, ça passe ». Lorsqu'on veut arriver à un résultat, il n'est pas possible pour nous de ne pas respecter les règles. Par exemple, lorsque nous voulons convaincre les gens de ce que nous pensons être la volonté de Dieu, eh bien, il est tentant de mettre en avant parfois certains versets bibliques qui vont exactement dans le sens de ce que nous voulons démontrer. C'est ce que semble dire le verset, mais en fait, si on y regardait d'un peu plus près et qu'on regardait dans quel contexte est écrit ce verset, eh bien, on réaliserait que ce verset dit en réalité autre chose. Ce que nous disons est peut-être juste, mais si jamais nous forçons le texte biblique, nous ne respectons plus les règles de nous soumettre, nous, à la parole de Dieu. Et malheureusement, des fois, on fait dire à la Bible pas forcément des choses qui sont fausses, mais en piochant à droite ou à gauche, on fait des fois dire des choses qui ne se trouvent pas dans le verset que justement on met en avant. Nous pouvons être tellement désireux que Dieu prouve sa fidélité à nos besoins ou envers pour quelqu'un d'autre, que des fois on peut être tenté de donner un petit coup de pouce à Dieu en faisant par exemple une fausse déclaration afin d'obtenir un avantage, une aide, ou bien en exagérant notre témoignage de ce que nous avons vécu, en nous disant que ça aura plus de poids. Nous voulons plaire à Jésus, ça c'est notre priorité. Eh bien, sachant que jamais le Seigneur ne nous demandera de ne pas respecter les règles, même si nous pensons que ce serait utile, même si c'est pour une bonne cause. Dieu est suffisamment puissant pour réaliser son plan sans que nous ayons besoin de l'aider en trichant. Respecter les règles, c'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est en même temps pour nous reconnaître et manifester que nous lui faisons pleinement confiance. Nous avons confiance que si nous accomplissons sa volonté, Dieu bénira ce qui est conforme à sa volonté. Et cela nous conduit à notre dernière image, celle du cultivateur au verset 6. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Ce verset peut également se traduire de cette manière. Le cultivateur doit premièrement peiner avant de récolter des fruits. Dieu est souverain. Dieu est puissant, ça c'est vrai. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, comme nous le dit Luc 17. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de nous pour réaliser son plan. Mais souvent, Dieu utilise ceux qui lui appartiennent pour accomplir son plan, et Dieu, dans sa grâce, a plaisir à bénir leur travail. Est-ce que nous voulons qu'au travers de notre vie, Dieu produise du fruit? Est-ce que nous pensons que ça va se faire comme ça, pour dire « Mais Seigneur, vas-y, bénis !» Est-ce que nous avons envie de pouvoir récolter les fruits que Dieu fera grandir? Eh bien, pour cela, nous devons être prêts à travailler dur, de manière à semer ce que Dieu fera grandir. Et selon notre passage, cela consistera à d'abord faire de Christ notre priorité absolue. Lorsque nous choisissons de faire ce qui lui plaît, lorsque nous faisons ce que Jésus ferait à notre place, nous nous inscrivons à 100% dans le plan de Dieu. Et donc pas tellement étonnant que Dieu bénisse cela, parce que nous sommes à 100% dans l'axe que Dieu voudrait donner à notre vie. Si toutefois, nous respectons également les règles que Dieu a lui-même fixées. Ce n'est pas un travail facile, parce que c'est un travail de tous les jours, à chaque instant. Ce n'est pas quelque chose où on dit « voilà, je le fais une fois ». Non, notre vie, on vit du matin au soir. La nuit, on peut dire « on dort », on est entre parenthèses, mais on ne s'en rend même pas compte, on dort. Mais la journée, notre journée n'est qu'une succession de choix. Eh bien, chacun de ces choix, aussi bien de ce que nous faisons, pensons, ressentons, est l'occasion de manifester notre désir de suivre Dieu et de lui faire confiance. Si nous faisons cela, Dieu, dans sa grâce, fera pousser du fruit. Alors, nous ne savons pas quel fruit, Peut-être que ce fruit se manifestera dans la vie de quelqu'un d'autre, mais aussi peut-être que ce fruit se récoltera avant tout dans notre propre vie, selon notre verset. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Le premier à en récolter, ça ne veut pas dire le seul à en profiter, mais le premier. Parce qu'évidemment, il n'y a pas qu'un seul fruit, mais il peut y en avoir plein d'autres. Et des fois, nous sommes étonnamment bénis intérieurement, là où même nous n'imaginions pas. Nous avons semé en pensant à quelqu'un d'autre. Et en fait, la première personne qui récolte quelque chose, c'est nous. Parce que nous avons vécu quelque chose de plus avec Dieu. Nous voyons sa grâce dans nos vies. Le Seigneur nous appelle à vivre en soldat, à lutter comme un athlète et à travailler durement comme un cultivateur. Peut-être que nous lui disons que cela est au-delà de nos forces. Et c'est vrai, c'est au-delà de nos forces. Mais voilà ce que le Seigneur nous dit au verset 1. « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Il ne nous a pas dit « Allez, trouve en toi la force nécessaire et compte sur tes propres capacités. » Mais il nous a dit « Puise en Jésus les forces nécessaires. » Tous les dons, toutes les ressources que Dieu accorde sont inclus dans la grâce qui nous est accordée en Christ. Notre salut, la puissance du Saint-Esprit, les dons spirituels, notre communion avec Dieu. Comme dans tout ce qui concerne notre vie avec Dieu, nous voyons que le Seigneur met d'abord à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour vivre avec lui, pour le suivre et pour le servir. Mais ce que le Seigneur attend simplement de nous, c'est que nous fassions le choix de lui faire confiance, de le suivre, de nous appuyer sur lui et de compter sur lui dans notre vie de tous les jours, à chaque instant. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu de grâce. Tu es le Dieu qui nous a aimés le premier. Tu es le Dieu qui s'est donné avant que nous nous donnions à toi. Tu es le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Ce que tu attends simplement de nous, c'est que nous te fassions confiance. Nous voulons te remercier pour ta grâce, mais dans le désir de nos cœurs, Seigneur, nous voulons te suivre, te ressembler. Et bien, Seigneur, nous voulons te faire pleinement confiance. Seigneur, aide-nous à faire de toi notre priorité. Merci parce que tu nous décharges de tous les fardeaux que nous sommes incapables de porter. Ce que tu as simplement de nous, c'est que nous fassions le choix que Jésus ferait à notre place. Et c'est comme ça que tu veux nous faire grandir et que tu veux faire que notre vie trouve pleinement son sens et porte du fruit. Aide-nous, Seigneur, aujourd'hui, demain, cette semaine et chaque jour de notre vie à nous appuyer pleinement sur toi et à faire de toi notre priorité absolue. Amen.